Bonjour à toutes et à tous et merci d'être avec nous pour cette nouvelle émission, les capsules du patrimoine. Les capsules du patrimoine, on déchiffre une époque, une architecture ou un savoir-faire pour mieux comprendre d'où on vient et où on va tous les mois sur CFM Radio avec l'équipe du service inventaire du patrimoine du pays Midi-Quercy qui vous fait part de ce qu'elle a découvert par le biais de ses recherches. Aujourd'hui en studio, on a l'équipe complète, Carole Stadnitsky, Sandrine Rueffli et Léa Gérardin-Macario. Bonjour à toutes les trois.
Bonjour.
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 Et vous avez invité Emmanuel Moureau, conservateur des antiquités et objets d'art du Tarn-et-Garonne. Bonjour Emmanuel.
Bonjour.
Pour parler paléographie. La paléographie, c'est la science du déchiffrement des écritures anciennes. Sans la paléographie, il est impossible de lire une grande partie des documents d'archives du grec paléios, ancien, et graphia, écriture. La paléographie est indispensable pour étudier le patrimoine. Depuis le Moyen-Âge, l'orthographe, le vocabulaire et la façon de tracer les lettres n'a eu cesse d'évoluer. Peu de personnes savent aujourd'hui lire le latin médiéval, l'occitan médiéval ou l'ancien français. Emmanuel Moureau, lui, le sait. On va tout savoir sur la paléographie aujourd'hui dans cette émission. On va parler des textes au Moyen-Âge, des textes à l'époque moderne et jusqu'au XVIIIe siècle où s'arrête la paléographie. Ça se stabilise, on va dire. On commence d'abord par un petit point, une généralité. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de la paléographie ?
Alors, en définitive, on a besoin de la paléographie quasi au quotidien dans notre travail d'inventaire, j'ai envie de dire, puisque pour comprendre qui habitait dans les maisons, ce qui s'y passait, pour incarner en fait l'architecture qu'on étudie, il est essentiel de savoir, de lire ces textes anciens. Alors, c'est très varié en fonction de l'époque du bâtiment, parce que les textes médiévaux ne se lisent pas de la même manière que les textes de l'époque moderne. Mais à partir de ces textes, on peut savoir quel propriétaire occupait le lieu, à quel moment il l'a vendu, les successions, donc les actes notariés, c'est quelque chose qui est essentiel pour nous. Et puis également, on peut avoir, je pense, à des inventaires après décès, dans lesquels on trouvera une mine d'informations assez incroyable sur ce que possédait le propriétaire dans la dite maison qu'on étudie.
Ça permet surtout de relier les archives, donc les traces écrites, aux traces matérielles qui sont conservées au travers des bâtiments et souvent de renseigner les bâtiments. Et inversement, des archives nous apprennent, permettent d'avoir des informations que l'on ne connaîtrait pas rien qu'en observant et en étudiant ce qui subsiste aujourd'hui de ces époques.
Ces documents sont conservés aux archives départementales de Tarn-et-Garonne, mais quelquefois, on peut les trouver dans des fonds privés.
C'est-à-dire chez des particuliers qui vont conserver les archives de famille.
On utilise donc certains types de sources. On ne va pas mobiliser toutes les sources disponibles aux archives départementales ou chez les propriétaires. Nous, on se focalise vraiment sur toutes les sources qui vont pouvoir nous renseigner sur un bâtiment. Et donc, c'est surtout des sources fiscales ou des sources donc notariales. Parfois, donc, quand on a quelques sources chez les personnes... chez les gens qui ont conservé, bah, ça peut être aussi bah, leurs actes de mariage qui décrivent certaines propriétés. Ça peut être vraiment plein de... Parfois des lettres aussi qui peuvent décrire des bâtiments quand ils achètent ou quand ils vivent au quotidien dans des bâtiments. Donc c'est ce type de source qu'on cherche. Par exemple, on fait assez peu de généalogie. La paléographie, ça peut être utile aussi pour lire plein d'autres documents et en particulier pour la généalogie, les gens qui essayent de retracer l'histoire de leur famille. Donc qui utilisent aussi des sources notariées, mais aussi par exemple beaucoup les registres paroissiaux, où il y a les dates de décès ou de naissance de membres de leur famille. Nous, on va plutôt faire de la généalogie de propriétaires. On va partir de la maison et on va essayer d'avoir tous les propriétaires successifs. Donc on ne va pas s'attacher à une famille, mais à tous les propriétaires successifs. Voilà, c'est un petit peu différent de ce que peuvent pratiquer d'autres personnes.
Et ça commence au Moyen-Âge. On parle des textes au Moyen-Âge ?
Alors, au Moyen-Âge, il n'y a pas que dans les abbayes qu'on va trouver des écrits. À partir du 13e siècle, l'écrit se généralise beaucoup et nos aïeux passent devant le notaire pour... tout un tas d'actes qui rythment la vie quotidienne, que ce soit pour acheter une terre, pour se marier ou pour régler des dettes. Il faut savoir aussi que ces documents, matériellement, ils se présentent bien sûr sous la forme de parchemin, donc de peaux, donc d'animaux qui sont préparés pour qu'on puisse écrire dessus. Mais il y a aussi beaucoup de papier. Ce papier chiffon est la grande révolution de l'époque médiévale et ce qui va d'ailleurs préparer l'imprimerie un petit peu plus tard. Donc pour écrire sur ces supports, on utilise une encre particulière qu'on dit ferrogallique. En fait, c'est une encre qui est composée de minerais de fer, de noix de galle également, et ensuite de formules propres à chaque artisan. Et cette encre est très résistante à la fois à la lumière, à la fois au temps, et ce qui nous permet aujourd'hui de travailler sur ces actes. On utilise des plumes d'oie généralement, pour pouvoir donc tracer ces lettres. Et ce qui est très important aussi de rappeler, c'est qu'à l'époque médiévale, c'est l'écrit qui fait foi. Et c'est aussi pour cela qu'on passe devant le notaire ou que l'on établit un acte. C'est pour bien avoir la preuve physique de la réalité d'une situation donnée. Et le notaire qui va enregistrer l'acte, donc qui a fait des études de droit, ce notaire, il s'engage lui-même, il engage sa réputation et sa personne et il signe l'acte à la fin. Il précise que c'est lui qui l'a rédigé. Et il va même apposer ce qu'on appelle un sein de notaire, donc S-E-I-N-G, qui est en fait un petit dessin qui lui est propre. Et on retrouve encore cette expression aujourd'hui lorsqu'on va signer un sous-saint privé.
Et ces saints de notaire, on peut le dire, souvent ils sont un petit peu tarabiscotés, il y a des volutes, il y a des points, il y a des carrés, il y a des grandes flèches, c'est vraiment quelque chose qui est dessiné, c'est pas une signature où on signerait le nom, comme nous on le fait aujourd'hui, c'est vraiment un dessin qui va être propre à chaque notaire.
Et d'ailleurs, si on parle de graphie et de jolis éléments qu'on peut retrouver dans ces documents, dans les compois, les compois qui sont des sources fiscales, on retrouve souvent les premières lettres qui sont décorées de cette façon. On ne perçoit que difficilement la lettre, tellement elle peut être joliment dessinée avec parfois des visages ou alors une représentation dans cette majuscule du métier du propriétaire de la maison. Donc on va représenter une scie, ou alors s'il est charpentier, ou ce genre de choses. Donc ça, c'est des éléments aussi qui peuvent être vus dans les compois, mais également dans d'autres sources, c'est les trines décorées. Et on a un exemple très joli pour le compois de Montricou de 1478, que vous pouvez aller consulter aux archives départementales.
Alors la difficulté majeure des textes médiévaux, c'est la forme des lettres, qui est en fait, contrairement à ce que l'on pourrait croire, très régulière. Les notaires écrivent bien, la plupart du temps, et on arrive donc avec un peu d'entraînement aussi à repérer la forme des lettres. Il y a des lettres compliquées comme le E par exemple, comme le R ou comme le S. Les formes peuvent varier d'un notaire à l'autre, mais surtout elles peuvent varier en fonction de l'emplacement du mot. Si on est en fin de phrase, certaines lettres ont tendance un petit peu à disparaître. Donc ça aussi, c'est une question d'habitude. Et pour l'époque médiévale, les notaires emploient beaucoup d'abréviations qui sont standardisées, heureusement pour nous. Donc pour gagner du temps, on va donc réduire les mots à quelques lettres. Et on utilise un dictionnaire spécifique de ces abréviations qui a été compulsé par un Italien au XIXe siècle qui nous permet donc bien de déchiffrer ces abréviations et de rétablir le mot dans son entier. Et un autre souci qui est la date. Il faut bien avoir en tête qu'à l'époque médiévale, l'année ne commence pas au 1er janvier. Elle commence, en tout cas chez nous, dans le midi, au 25 mars, donc le jour de l'Annonciation. Donc on change d'année le 25 mars, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, quand on travaille sur un texte médiéval, il faut rétablir la date au 1er janvier.
Emmanuel, tu disais tout à l'heure que la fin des mots était souvent assez mal écrite. Il y a une raison technique à cela, c'est qu'il n'y a plus d'encre à la fin dans la plume, donc c'est pourquoi la fin du mot, très souvent, est difficilement lisible.
On a aussi des soucis tout simplement liés à l'homme qui écrit. Hein. Certains notaires ont tendance à prendre de l'âge. Évidemment, on reste notaire en poste jusqu'à la fin de sa vie. Et c'est parfois assez émouvant de constater que le notaire a la main qui tremble, qu'il a du mal à écrire. Et parfois, d'ailleurs, ça devient complètement illisible jusqu'à ce qu'on ait une nouvelle main qui apparaisse dans le registre avec une nouvelle écriture. Et donc, on peut se douter que le notaire avec qui on avait cheminé pendant quelques dizaines de pages a rendu l'âme.
Léa, tu avais remarqué, toi, sur des textes, des petites incises, en fait, pour... À Bruniquel, c'était, je crois.
Oui, c'était pour insister un peu sur ces textes médiévaux, là, dont on parle. Il y a souvent quand même une vraie qualité graphique dans le texte. Donc, on l'a dit, avec la forme des mots, la forme des lettres, les dessins des lettrines, donc des personnages qui sont insérés dans les grandes lettres, c'est vraiment très très joli à regarder. Et il y a aussi donc ce que tu disais, Carole, dans certains textes, comme ils sont très longs, un parchemin, vu que c'est une peau, on peut avoir d'une seule pièce quelque chose de très grand, presque une nappe, quoi, parce que c'est une peau d'animal à la base, c'est pas une feuille de papier A4 comme nous on a l'habitude d'avoir devant nous. Et donc ces textes très très longs où on remplit au maximum l'espace, parce qu'il ne faut pas perdre de place, pour s'y retrouver, parce qu'il n'y a pas de paragraphe, il n'y a pas de saut de ligne. Donc pour s'y retrouver, le scribe, ouais, en quelque sorte, il va dessiner dans les petites marges autour une main avec son doigt qui pointe vers l'endroit où il y a un passage important. C'est vraiment, voilà, et du coup, visuellement, on voit tout de suite, bah, hop, il y a une petite main là, à la 4e ligne, un peu à la 18e ligne, il y a une autre petite main avec son petit doigt qui nous dit, bah, là, il se passe quelque chose d'important dans cet acte. Et donc ça donne vraiment une qualité à ces objets, parce qu'il y a le texte, ce que veut dire le texte, donc on en parlait, hein, c'est pourquoi ça nous est utile, mais il y a aussi la qualité de l'objet texte qui est très joli à regarder.
Ces petites mains, c'est un peu l'ancêtre du fluo sur nos textes à nous aujourd'hui, ou l'ancêtre du texte, du mot qu'on souligne en fait. Voilà. On dessinait une petite main à l'époque.
Ouais. Et ce qui est amusant, où tout à l'heure Sandrine nous parlait du compois de Morico, donc le compois, c'est un document fiscal, c'est un peu votre déclaration d'impôt en quelque sorte. Vous vous imaginez que c'est comme si vous aviez... tout le monde voit son formulaire de déclaration d'impôt actuellement, qui est quelque chose de pas très sexy, quoi. Regardez comme document, visuellement. Eh bien, une déclaration d'impôt du 15e siècle, c'est très joli à regarder visuellement, parce qu'il y a ces personnages, des petits dessins, des volutes. Voilà, on pourrait l'encadrer quasiment, cette déclaration d'impôt, ce qu'on ne ferait pas du tout aujourd'hui avec notre déclaration d'impôt.
Et lorsque le notaire avait un acte relativement court à rédiger, et il pouvait le faire sur la même peau de parchemin, en deux fois. Donc il reproduisait l'acte pour le donner à chacune des parties, et au milieu, il pouvait tracer des lettres, souvent c'est ABCD, il coupait au milieu des lettres, ce qui permettait donc d'authentifier le document, et lorsqu'on avait besoin de réunir les deux parties, ou s'ils contestaient, eh bien on pouvait réunir ces deux morceaux de parchemin, et avec les lettres coupées en leur milieu, eh bien on pouvait prouver que le document n'avait pas été falsifié. Il n'y a pas de photocopie, mais ça permettait justement de confirmer qu'on n'avait pas réalisé de faux. L'autre difficulté, c'est que souvent, les documents médiévaux mêlent le latin et l'occitan. En tout cas, l'occitan, bien sûr, dans notre midi. Le latin est réservé généralement au début de l'acte, où on a donc un certain nombre d'informations qui sont des informations obligées et classiques. On dit toujours, on a une formule d'annonce qui est toujours « Noverint universi singuli et presentes », donc tous ceux qui sont ici présents, que ce soit eux-mêmes ou tous ensemble, soient au courant, sachent que, et même ceux qui seront là dans le futur, sachent qu'aujourd'hui, donc on donne la date, le lieu, généralement le diocèse également dans lequel se trouve la ville, ce jour-là, moi, notaire, j'ai transcrit l'acte suivant. Et l'acte, il est bien, bien souvent, au contraire, rédigé en occitan, comme c'est le cas pour cet acte qu'a étudié Léa sur les boucheries de Bruniquel.
On pensait justement vous proposer une petite lecture d'un document justement du XIVe siècle que Léa a étudié. Emmanuel, si tu es d'accord. Sachez quand même qu'il y a très peu de personnes, vraiment très peu, j'insiste, en Tarn-et-Garonne, qui savent lire l'occitan médiéval et le latin médiéval. C'est précieux.
Alors c'est un acte donc qui concerne les boucheries de Bruniquel. Il faut savoir que ce droit de boucherie était un droit qui était qui appartenait au seigneur, qu'il pouvait donner au consul, c'est-à-dire aux représentants en fait de ce qu'on appelle l'universitas, c'est-à-dire l'ensemble des habitants de la ville. Donc ces bouchers avaient le droit de vendre de la viande dans un lieu spécifique qui était bien souvent, et c'est le cas à Bruniquel, situé sous la maison consulaire, à la maison des consuls, c'est-à-dire au rez-de-chaussée, sur ce qu'on appelle des bancs de boucherie, qui étaient affermés, loués chaque année, et on débitait, on ne vendait que la viande déjà débitée, c'est-à-dire que vous allez voir que les animaux n'arrivent pas sur leurs quatre pattes dans ces boucheries. Et là, donc, on a cet acte qui précise, de manière juridique, qui est autorisé à faire quoi à Bruniquel. Donc, je vous lis juste un extrait. So es a saber los mazels. Alors, les mazels, donc, ce sont les boucheries en occitan. Donc, so es a saber los mazels, que los mazeliers del ditchlock de Bruniquel n'osen talia a carnas, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas le droit de couper les carcasses. Et un petit peu plus loin, on nous dit que les los cosols alogaran tot en un loc en lor mayor comunal, exceptat davant la cara de su nostal. Donc, ces bouchers ont le droit de découper la viande dans le lieu qui leur est assigné par les consuls, en l'occurrence sous la maison communale. Le vicomte de Bruniquel dit qu'il ne veut pas en voir devant la façade de sa maison. Et l'acte nous précise un petit peu plus loin qu'en réalité, eh bien, les bouchers ont le droit de tuer, d'écorcher, de saigner les bêtes de type mouton, agneau, bouc, chèvre, de les préparer dans la rue. On comprend pourquoi le vicomte de Bruniquel n'a pas vraiment envie d'avoir tout ça devant chez lui, à condition qu'il nettoie ensuite tout le sang et toute la tripaille qui s'est répandue dans la rue pour que ce soit propre. Par contre, les bêtes un petit peu importantes, comme les bœufs, évidemment, n'ont pas le droit d'être tués dans la rue et doivent l'être dans un lieu bien spécifique.
Donc pour vous lire l'énumération des animaux en occitan, keaya un aomench, moutons, cabrits, o agnels, fedas, cabras, o box. Donc là, on a eu les moutons, les cabris et les agneaux, les fedas, alors là, on a les brebis, cabras, la chèvre, et box, le bouc. Donc bouc, d'où vient notre mot en français, boucher. Ceux qui tuent les boucs, et comme on l'a dit tout à l'heure, en occitan, en fait, les bouchers, c'est les mazeliers. Et ce texte, il était important de réussir à bien le lire, en particulier parce qu'il y avait des endroits du parchemin qui étaient pliés, donc on n'arrivait plus à lire les lignes, donc grâce aux archives départementales, on a pu les déplier, parce que, comme le disait Emmanuel tout à l'heure, il mentionne donc l'hostal, l'hôtel, la maison du vicomte de Bruniquel, qui se trouverait donc près des boucheries et de la maison commune. Et à ce moment-là, moi j'étudiais une maison à Bruniquel qui se trouve être tout près de ce qu'on pense être la maison commune de Bruniquel au Moyen-Âge. Et donc la grande question c'était, est-ce que cette maison que j'étudie qui est presque en face de la maison commune, ce serait pas la maison du vicomte que mentionne cet acte et dont il veut pas avoir les carcasses d'animaux dans sa rue devant chez lui. Donc voilà, c'était un petit peu tout l'enjeu de bien réussir à déchiffrer parce qu'il y avait une interrogation donc sur le mot sur lequel justement a buté Emmanuel tout à l'heure. Parce que en fait, il y avait eu une première lecture de ce texte il y a longtemps, au 19e siècle, qui ce mot de cara l'avait lu comme une abréviation de carriera, qui veut dire carriera la rue. Donc le texte disait qu'il ne voulait pas avoir les carcasses devant la rue de sa maison. Et en fait, en le relisant, ce texte, on s'est bien rendu compte que c'était le mot cara et pas une abréviation de carriera. Et le mot cara, ça veut dire, on l'a interprété comme face, façade. Et donc quand on relit le texte avec cette compréhension de ce mot-là, on comprend qu'il ne veut pas avoir les carcasses devant la façade de son hôtel. Et c'est un petit peu différent en termes de sens pour quand on veut comprendre où on se trouve dans la ville. de juste mentionner la rue en général et la façade en particulier. Parce que la façade en particulier, ça veut vraiment dire que sa maison, elle est tout près de la boucherie. C'est pas la rue dans laquelle il y a sa maison, c'est vraiment la façade. Donc c'était pour ça que c'était important de retourner voir ce texte, qui était déjà connu, hein, mais de retourner le voir, de le relire, de bien faire attention à toutes les lettres, de vérifier qu'il n'y ait pas d'abréviation et de comprendre mot par mot ce qui est écrit.
Dans cette émission, les capsules du patrimoine, on parle paléographie. On parlait des textes au Moyen-Âge et on parlera de l'époque moderne juste après la musique.
Dire des choses ou avoir envie de dire des choses qu'à partir d'une mise en forme de l'espace. En maîtrisant toutes les données du spectacle. Dire des choses ou avoir envie de dire des choses qu'à partir d'une mise en forme de l'espace, à partir de en maîtrisant toutes les données du spectacle. Envie d'aller vers d'autres choses. Me fait souffrir. De dire des choses que. 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 Du spectacle.
Ti chiedete la seconda parte. Ti potrai dare una indra.
Il souffre d'être seul. Pour travailler seulement. Uniquement là pour travailler. Avoir envie de dire des choses qu'à partir d'une.
De retour dans l'émission Les Capsules du Patrimoine, où on parle paléographie aujourd'hui. Alors c'est la science du déchiffrement des écritures anciennes, juste avant la musique. On parlait des textes au Moyen-Âge et on passe maintenant à l'époque moderne.
Alors l'époque moderne, on va surtout vous parler du XVIIIe siècle, parce que le XVIe siècle est une période très compliquée pour la paléographie. Les lettres sont excessivement déformées, les mots ont tendance à s'écraser, c'est quelque chose qui est très très difficile à lire, et il y a peu finalement de textes aussi du XVIe qui sont aujourd'hui conservés, mais on voulait vous présenter quelques extraits d'actes notariés du XVIIIe siècle qui sont assez savoureux et qui nous servent beaucoup pour l'étude à la fois des immeubles et des meubles qu'ils pouvaient contenir.
Juste pour préciser, ce sont des textes au XVIIIe là qui peuvent paraître à première vue comme ça assez similaire à notre écriture à nous, à notre graphie. Mais il y a quelques pièges à déjouer, parce qu'on se rend compte que la personne qui rédige, bien souvent, attache les mots les uns avec les autres, par exemple. Ou alors ne respecte pas notre ponctuation à nous, c'est-à-dire qu'on va commencer une phrase sans majuscule, des noms propres, pareil, ne vont pas être avec une majuscule, et tout à coup, un mot de liaison au milieu d'une phrase va comporter cette majuscule. Donc voilà, il faut un petit peu mettre de côté ce que nous, on a appris à l'école.
C'est une logique qui est autre, et même sur les noms propres, il ne faut pas s'attacher à l'orthographe des noms propres. Un soulier aura un ER, aura un E, aura.
Et ce, dans le même texte.
Dans le même texte, l'orthographe varie, voilà.
Et c'est la grande difficulté, c'est justement d'identifier les noms propres et de savoir de qui on parle, parce que, comme l'a dit Carole, on peut avoir plusieurs graphies dans le même texte, et c'est souvent l'écueil principal, comment lire ces noms propres.
Justement, pour déchiffrer un texte, la difficulté, c'est justement de lire et relire et re-relire ce même texte. Parce qu'ensuite, il faut faire un travail de déduction aussi en fonction de ce qu'on a lu dans les lignes précédentes. C'est comme ça qu'on arrive à déchiffrer un texte. Mais rassurez-vous, il existe aussi des dictionnaires hein, pour le 18e d'ancien français qui peuvent voilà, donner 2-3 billes.
Un travail de déduction et de comparaison. Pas forcément vouloir lire un texte dès la première fois dans sa globalité, mais le lire certes une première fois, identifier un mot que l'on comprend, le comparer peut-être avec un autre mot qu'on n'avait pas compris lors de la première lecture, laisser reposer le texte, passer à un autre et puis revenir au texte initial pour enfin déchiffrer et comprendre.
Et lire à haute voix surtout.
Exactement. Ça aide énormément.
Et l'avantage qu'on a, par contre, pour l'époque moderne, c'est que c'est écrit en français. Au Moyen-Âge, on l'a dit tout à l'heure, on était en occitan, on était en latin. Et à partir de l'époque moderne, le gros avantage qu'on a, c'est que ça y est, le français a été généralisé dans les actes. Le gros inconvénient qu'on a, c'est qu'il est écrit avec une orthographe totalement fantaisiste.
Alors, il faut... C'est effectivement l'édit de Villers-Cotterêts qui, pris par François Ier, qui va imposer le français dans les actes officiels, donc notamment pour les notaires. Mais il faut bien avoir quand même à l'esprit que ces notaires, parfois, ils ne lorsqu'on s'adressait à eux et lorsqu'on venait passer un acte chez le notaire, les personnes qu'il avait en face de lui parlaient tous occitan. Et c'est lui qui transcrivait en français ce qu'on lui racontait. Parfois, il comprenait pas. Et donc, il inventait un mot en français mêlé d'occitan. Et c'est aussi la difficulté d'arriver à comprendre ce qu'il a bien voulu lui-même soit comprendre, soit au contraire ne pas comprendre. Et ça nous amène parfois à des situations cocasses. Et puis, il faut avoir un peu d'humilité et se dire que bien, il y a des mots qu'on ne déchiffrera pas et qu'on ne comprendra pas parce que justement, le notaire lui-même n'a rien compris à ce qu'il a dit.
Tu nous lirais un petit extrait d'un texte 18e de Caylus, Emmanuel ?
Là, alors, c'est un inventaire après décès de la maison d'un curé en 1726.
Alors, on décrit évidemment, comme c'est un inventaire après décès, hein, tout doit être expertisé, tout doit être estimé, et donc on nous décrit tout. Donc, nous sommes dans la chambre. L'alcôve étant tapissée de bergame en deux pièces et fermée de deux rideaux de cadis rouge, plus deux fauteuils garnis de cadis rouges. Alors l'alcôve, vous l'aurez compris, c'est cet espace tapissé de boiserie où se trouvait le lit. Et cette alcôve, elle est décorée de ce qu'on appelle des tapis de bergame. Donc ce sont des tapis de laine qui viennent, en tout cas pour les motifs, d'Italie. Et qui étaient fabriqués donc, un petit peu partout en France, et notamment certainement d'ailleurs à Saint-Antonin, Nobleval. Et donc on a deux rideaux en cadis. Alors le cadis, c'est de la laine tassée qui était fabriquée à Montauban, donc évidemment pour tenir chaud. On trouve aussi six carreaux de mouquette verte pour le lit ou pour les chaises. Alors les carreaux, c'est en fait une sorte de petit coussin, donc charmant, garni de moquette verte. Donc on peut imaginer un petit peu la tête de la moquette au 18e. On trouve aussi un soleil de carton doré pendant à côté du lit. Et de l'autre côté du lit, un bénitier de soie. Donc là, on a, comme c'est un ecclésiastique, on a donc ce bénitier qui est en fait réalisé en carton recouvert de soie. Il a également une chaise de commodité garnie de moquette verte. Donc une chaise de commodité, c'est en fait un pot de chambre mis dans une chaise. Et on imagine un petit peu la tête de la chaise avec la moquette verte. Un tableau de Notre-Dame à cadre doré en marbre, là aussi, hein, donc pour décorer sa chambre. On va trouver donc également une cheminée qui est garnie de bois noguier. Alors c'est aussi la difficulté, c'est que je vous disais qu'il y a des termes d'occitan. Hein, le noguier en occitan, c'est le noyer. Hein, donc de bois noguier, donc un noyer. Avec un cadre soutenu par des piliers et des pilastres. Et le dedans du cadre, garni d'un tapis à la turque, donc servant de tableau. Donc en fait, au-dessus de la cheminée, on avait une sorte de trumeau avec un tapis à la turque. Dans la cuisine, on trouve, curieusement, un lit à tombeau, garni de toiles carrelées, de matelas de laine, d'un traversin de plumes, et d'une courte pointe et d'une paillasse. Donc c'est assez original de trouver un lit dans la cuisine.
Mais ça a l'air tout simple à vous entendre. Alors déjà, il faut arriver à connaître ce que vous êtes en train de lire. Si moi, je prends cette feuille et que je tente de la déchiffrer, à mon avis, ça ne va pas être la même.
Oui, oui.
Est-ce que j'essaye?
Oui.
Moi, je lis. Alors, à partir du début, une limande à menu froid à quaba portes, ugansi à dos portes. Non, je vois. Deux grands jeûners, une plaque de. Je ne sais pas. Une pelle à fort de poule à fèves.
Alors, en fait.
En fait, non.
ou presque. Donc, c'est bien une limande. Alors, la limande, ce n'est pas le poisson, c'est une armoire en occitan. Donc, une limande à menuiserie à quatre portes. Donc, c'est en fait une armoire en bois. En dessous, c'était un buffet à deux portes. Ensuite, on trouve une petite table à plateau. Deux grands chenets, qu'il a écrit effectivement chenets. Une plaque de fer servant de devant de feu. Un pendant de feu. Une pelle à feu. Donc, ce n'est pas une poule, c'est une poêle à frire.
Merci.
Alors, si on a besoin effectivement du latin, de l'occitan médiéval pour lire les textes du Moyen-Âge, ce n'est pas le cas pour la période moderne. C'est une question d'entraînement pour le XVIIIe siècle. Et ben, voilà, on arrive petit à petit à comprendre la forme des lettres, à se familiariser aussi avec le notaire qui écrit. Et puis, comme l'a dit Sandrine, à force de lire à voix haute et de répéter, eh bien, la poule se transforme à poêle à frire.
Il faut beaucoup d'entraînement.
Donc, comme on disait, pour progresser, rien ne vaut la pratique. Et nous-mêmes, on se prend vraiment au jeu de lire ces documents parce qu'on rentre dans la vie des gens, on rentre dans la maison. Et puis comme vous le voyez, ben, en fait, on s'amuse aussi à essayer de lire mot par mot la mouquette, l'alimande. Et on cherche, on a envie de chercher, on a envie de trouver tous ces mots qui se suivent.
Et on bute sur tous les mots, mais ça fait absolument partie du jeu, donc il ne faut pas avoir peur du ridicule.
Il faut s'entraîner, et si vous êtes intéressé pour vous aussi vous mettre à la paléographie, vous initier à la paléographie, les archives départementales de chaque département proposent des cours de paléographie. Il suffit de vous adresser aux archives départementales de là où vous résidez.
Sachant qu'il n'y a pas de paléographie après le XVIIIe siècle, parce qu'à cette époque-là, la graphie se stabilise, l'orthographe aussi, donc vous n'aurez pas des textes postérieurs au XVIIIe siècle.
Oui, parce qu'évidemment, ceci s'explique par le fait que il y a de plus en plus de gens qui fréquentent les écoles, et surtout, l'orthographe se stabilise avec les dictionnaires, donc tout le monde écrit les mots de la même manière, c'est beaucoup plus facile aussi à comprendre et à lire également, puisqu'on va passer sur... Enfin, la plume doit être remplacée par des plumes métalliques, et c'est évidemment plus agréable pour celui qui écrit et pour celui qui lit. Mais quand on tombe sur un notaire qui ne sait pas écrire comme il faut, même au XIXe siècle, c'est compliqué de lire.
On parlait paléographie aujourd'hui, science du déchiffrement des écritures anciennes. Dans cette émission, les capsules du patrimoine où l'équipe du service inventaire du Pays Midi-Quercy est accompagnée de Emmanuel Moureau, conservateur des antiquités et objets d'art de Tarn-et-Garonne. Et l'équipe était au complet aujourd'hui avec Sandrine Rueflis, Carole Stadnitsky et Léa Gérardin-Macario. Un grand merci à tous les quatre.
Merci.
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 Les capsules du patrimoine, une émission réalisée par le service inventaire du patrimoine du Pays Midi-Quercy dans le cadre de son pays d'art et d'histoire. Émission soutenue par le département du Tarn-et-Garonne, la région Occitanie et le programme européen Leader. Une émission aussi à retrouver en podcast sur le site de cfmradio.fr.